de la peinture au plomb, sur le fluor dans l'eau potable et le dentifrice. Ils ont menti sur les graisses saturées, ils ont menti sur les pesticides, ils ont menti à propos du glyphosate, ils ont menti sur les OGM, ils ont menti sur la sécurité des vaccins, ils mentent sur la...
Pas de mauvaise question. Bonjour et bienvenue à Pas de mauvaise question. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une aventure délicieuse à travers des couloirs parfumés de la chocolaterie Camille Bloch. Au cœur de la Suisse, cette maison de chocolat perpétue depuis des générations une tradition artisanale exceptionnelle, capturant l'essence même de la passion humaine par le chocolat. Lors de notre visite, nous avons plongé dans l'univers envoûtant du chocolat, où chaque étape de fabrication est réalisée avec un dévouement et un savoir-faire exceptionnel. Des fèves de cacao soigneusement sélectionnées aux délicieux barres de chocolat qui régalent les papilles du monde entier. Chaque instant est imprégné de l'amour et la passion des artisans chocolatiers. Ainsi, notre visite à la chocolaterie Camille Bloch nous a non seulement régalé des délices chocolatés, mais elle nous a également rappelé la passion intemporelle que l'humanité voue à ses trésors. Nous espérons que cette émission vous transportera vous aussi dans cet univers enchanté où la passion pour les chocolats règne en maître. Restez avec nous pour une aventure gourmande et inspirante dans le monde merveilleux du chocolat. Alors voilà, aujourd'hui, Pas de mauvaise question se trouve à Cortulari, à la fabrique de chocolat Camille Bloch, avec Jessica. Bonjour Jessica.
Bonjour Louise.
Merci de nous accueillir. On est accompagné de 5 enfants, alors on se réjouit de voir tout ça.
C'est un grand plaisir pour moi aussi. Donc, on va jeter un coup d'œil dehors parce qu'on a un beau parc aussi avec des jouets pour les enfants. Mais je pense que les enfants, ils aimeraient peut-être quand même goûter du chocolat, n'est-ce pas?
Ouais, je pense.
Alors très bien.
Même des adultes peut-être. Hein?
Ah, alors je vous propose un petit chocolat pour commencer, ça vous va?
C'est sympa comme introduction.
Donc, le brun foncé, c'est du chocolat noir. Le orange, c'est le classique chocolat lait. Et le doré, ça d'accord. Doit être ragusa blanc.
Trop bien.
Merci.
Non. Alors, les enfants, vous adorez les musées? Oui. Ok, toi aussi? Tu préfères pas regarder un match de foot?
Non.
Ok, super. Alors, j'ai beaucoup de chance alors de vous avoir avec moi. Vous l'avez peut-être entendu, le français, c'est pas ma première langue. Donc, je vais faire mon mieux pour vous parler en bon français. S'il y a quelque chose que vous comprenez pas, vous me dites. Si vous aimeriez parler en anglais ou en allemand, il n'y a pas de souci. Ça, je comprends, c'est très bien. Alors, je vais vous présenter ce musée. Ben, nous, on part pas du musée. On part que c'est un parcours découverte. C'est un petit peu plus intéressant. Un musée, ça fait un petit peu ancien, un petit peu vieux. Et ce qu'on raconte ici, c'est l'histoire de cette entreprise et de la famille Bloch qui a fondé cette entreprise. Il faut aller un petit peu dans le temps, 1929. Alors, suivez-moi, on va aller voir un petit peu comment ça s'est présenté en 1929. Alors, 1929, Camille est un jeune homme. Il a fait un apprentissage commercial chez Tobler. Vous connaissez?
Le Toblerone?
Le Toblerone, exactement. Donc, il était... Mais il a fait un apprentissage commercial, donc il sait pas comment faire du chocolat. C'est pas la même chose. Mais il adorait le chocolat. Et en 1929, il a pu acheter des machines d'une autre entreprise qui s'appelle Lindt. Est-ce que vous la connaissez? Peut-être sous Lindt und Sprüngli, donc une entreprise à Zurich. Et de base, Lindt était à Berne. Mais ils ont vendu leur marque à Sprüngli. Et comme ça, après, ils n'avaient plus le droit de produire leur chocolat à Berne. Et Camille, il a pu acheter ces machines. Et c'est là où il commence à produire du chocolat, comme nous on dit, de la fève jusqu'au chocolat fini. Alors il achète les fèves de cacao, il les torréfie, après il fait le mélange pour le chocolat et il le vend. Et avec ça, bon, quand on pense maintenant, le temps était complètement différent. Il n'y avait pas Migros, Coop et tous ces trucs. Hein. Donc il a dû le vendre, le chocolat, au marché, Et c'est ça qu'on voit ici. Donc, un petit stand de marché, comment ça a pu être, peut-être à l'époque à Berne. Et il y avait un marchand qui était là et qui vendait les chocolats de Camille Bloch à 20 centimes la pièce. Et pour essayer de vendre un petit peu mieux, il donnait encore, on s'appelle des bretelles, hein, avec. Ça, c'était une époque un petit peu différente que maintenant. Les choses vont assez bien et il peut produire plus, mais il n'y a pas tellement d'espace. Alors, si on n'a pas tellement d'espace là où on est, qu'est-ce qu'on peut faire? Déménager. Hein, peut-être. Mais ce n'était pas si facile parce qu'il fallait trouver un immeuble qui était assez grand et qu'il pouvait payer. Et par chance, il trouve cet immeuble ici, qu'en principe, vous voyez de l'autre côté de la route. Mais ici, on a aussi une image de cet immeuble. C'était une ancienne fabrique de papier à pâte qui a brûlé dans les années 20. Après, je ne sais pas s'il y a encore opératif dedans ou pas. Il a pu l'acheter avec le soutien des deux communes, Courtelary et Cormoré. Et comme ça, il a déménagé son entreprise avec quelques-uns de ses collaborateurs qui sont venus aussi de Berne, ici à Courtelary, en 1935. Alors maintenant, vous faites Berne, Courtelary, peut-être quelqu'un de vous l'a déjà fait en voiture, non? Donc c'est à peu près une heure. Mais à l'époque, ça prenait beaucoup, beaucoup plus de temps. Les routes n'étaient pas si bonnes, les voitures n'étaient pas si puissantes. Donc, c'était une situation complètement différente. Alors, il arrive ici à Courtelary. Il prend les collaborateurs de la région. Ça, c'était une des conditions que les deux communes lui ont aussi fixées parce qu'ils l'ont soutenu pour acheter cet immeuble. Et il commence à produire son chocolat ici. Et on arrive déjà, on va faire un petit peu des sauts dans les années. Donc, de 35, on va sauter directement à 42. Donc, à 42, on est déjà dans la Deuxième Guerre mondiale. Et en Suisse, comme ailleurs aussi, on a un problème un petit peu pour recevoir aussi des matières premières, parce que comme il y a la guerre en Europe et ailleurs dans le monde, les matières premières n'arrivent pas. Il n'y a plus tellement de cacao. Qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus de cacao? Comment faire le chocolat? Alors Camille, il utilise des noisettes, qui fait comme une pâte de noisettes, comme intérieur, et il couvre avec une fine couche de chocolat. Et c'est comme ça qu'il crée le ragusa. Et maintenant, vous allez le déguster. Alors, je vous invite à déguster. Voilà. Donc ici, on est à la fontaine de chocolat. On a deux fontaines. Ici, à gauche, c'est le chocolat, donc la couverture. Et après, vous mettez la cuillère là-dessous. Exactement. Je la remplis un petit peu et vous pouvez goûter. Alors, gardez votre cuillère. Ouais. Alors, tu mets ta cuillère ici. Voilà. Ça va? Une deuxième cuillère? Ah, alors, viens. Voilà. Toi, tu n'as pas encore eu? À toi non plus? Voilà. Donc, c'est une fontaine de chocolat où on laisse toujours sortir une petite portion et le reste est toujours gardé, donc aussi à une certaine température pour qu'elle reste liquide. C'est ça encore. Nous, on l'a mis sous verre pour des raisons d'hygiène, évidemment. Mais je pense que le goût, il reste quand même bon. Tout le monde a eu? Alors, c'est tout bon? Alors maintenant, ceux qui aiment bien les noisettes, même si je ne crois pas qu'on les sent vraiment tellement, peuvent goûter ici. Là, c'est la même fontaine, mais avec le praline, donc en fait l'intérieur du ragusa, sans les noisettes complètes. Hein. Donc, l'intérieur du ragusa, c'est avec des noisettes et des noisettes complètes. C'est un mélange un petit peu des deux. Moi, je pense que c'est très sucré. Qu'est-ce que vous pensez? C'est quand même...
Moi, je préfère plus sucré que amer.
Ah, voilà, oui. Donc, tu préfères, tu aimes bien ça, l'intérieur?
Ouais. C'est quand je venais ici visiter, je mangeais plus souvent celui-là que l'autre, sans les noisettes.
On change quelquefois avec les goûts, un petit peu. Avec l'âge, normalement, ça va plus un petit peu vers l'amer, le noir. Et je pense que les femmes sont plutôt pour le plus doux. Alors, je vois que nos fontaines ont un grand succès.
Nos parents, ils ont dit de ne pas trop abuser du chocolat. Ben, je ne crois pas que...
Le chocolat, c'est quand même une gourmandise. Donc...
Est-ce que vous avez des statues en chocolat?
Des statues en chocolat? Non, ça, on n'a pas. Parce qu'on le mangerait tout de suite. Non, mais on avait fait une fois pour une fête, ça c'est juste. Mais sinon, nous, on ne fait pas trop.
Une question aussi, c'est pourquoi le chocolat il devient rare la mer et la
mer. Oui, tu as entendu parler que le prix du cacao est très élevé,
ouais.
Et que la disponibilité est aussi un petit peu mise en question. C'est à cause du climat, parce qu'il a trop plu dans une certaine région, en Amérique du Sud, je crois. Et il n'y a pas assez plu en Afrique, où le cacao pousse. Et quand il y a peu d'une chose, le prix augmente. Et maintenant, avec les changements climatiques qui viennent en tout cas, les zones où tu peux avoir du cacao, parce qu'il faut une certaine température, humidité et tout, deviennent plus petits. Et donc, pour l'avenir, on aura peut-être moins de chocolat, mais on espère toujours du bon chocolat. Après la Deuxième Guerre mondiale, aux années 46 et plus loin. Et là, c'est notre air Torino. Dans le Torino, il y a un petit peu d'amande, 4%, et on le fait différemment. Le ragusa, on fait d'abord la coque en chocolat et après on le remplit. Et le Torino, on fait d'abord l'intérieur et après on va le couvrir avec du chocolat. Mais vous allez le découvrir. Alors, un petit peu d'histoire quand même. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse, vous savez peut-être, hein, la Suisse n'était pas en guerre. Hein? Alors, on a une industrie qui fonctionne. Les routes et tout, c'est tout bon. Par contre, il nous manque la main-d'œuvre, les personnes. Et donc, on fait venir des pays, surtout de l'Italie, la main-d'œuvre, les gens qui veulent travailler. Mais... les personnes qui viennent, ils osent venir pendant 9 mois et après ils doivent rentrer chez eux. Et ils n'avaient pas le droit de prendre leur famille avec. C'était vraiment pas facile. Et il y a quelques-unes aussi, je pense, qui sont venues en Suisse et qui sont restées là parce qu'ils sont tombées amoureuses. Ils se sont mariés, ils ont gardé leur famille ici. Donc c'est peut-être aussi un petit peu pour ça, pour que tous ces collaborateurs qui venaient de l'Italie, peut-être on a donné aussi le nom Torino à ce chocolat, donc un nom bien italien. Et maintenant, dans les années 50-60, il y a la deuxième génération qui reprend. Vous pouvez, ici, vous pouvez essayer justement de faire votre emballage. Essayez d'être créatif. Donc, de faire un emballage, je ne sais pas si peut-être vous pouvez vous imaginer un petit peu si vous le dessinez. Ça doit être... Qu'est-ce que ça doit être un emballage pour un chocolat? Oui.
Il faut qu'il y ait le nom,
oui,
de l'entreprise du chocolat. Et il faut mettre le nom du créateur et le nom du goût du chocolat.
Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais autre mettre encore de plus?
Un dessin.
Tu peux y aller.
Ouais.
Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Alors...
Une petite baguette de chocolat.
Oui. Donc, il y a dans un vrai emballage, vous avez quelques informations que vous êtes obligé de mettre et des autres que vous mettez comme vous voulez. Donc, ça, c'est des questions du marketing. Le marketing, c'est le département qui va faire que les gens, ils ont envie d'acheter vos produits. Alors, vous voyez derrière vous, sur le mur, là, différents exemples d'emballages qu'on a fait, aussi des marques différentes qu'on a plus. Là, c'est un petit peu des différentes choses. Et chaque époque a un petit peu ses propres trends dans le marketing. Donc, ça reste pas toujours la même chose. Et ici, sur le panneau là derrière, vous voyez un des logos de Camille Bloch des années 60 avec le C et le B qui donnent la bouche.
Et qui m'emprunte?
Qu'est-ce que tu es en train de faire, Zoé?
Un dessin.
Un chocolat.
Et toi, Sébane?
Un chocolat.
pâte de chocolat.
Il y a quelqu'un qui a déjà croqué dans ton chocolat, je crois. C'est juste, hein?
Oui, oui. Je dessine.
Tu dessines? Tu vas dessiner le chocolat?
Non.
C'est vrai?
J'aimerais aussi écrire et dessiner un chocolat.
Si? Pourquoi tu fais quoi, Elena?
Bah, j'écris.
C'est le, le chocolat de Elena.
Ouais.
Et toi, Luna, qu'est-ce que tu fais?
Mon chocolat, c'est, ça s'appelle Choc Bloc. Et c'est Luna Maté. Mat, plutôt.
Choc Bloc et Luna Mat.
Ouais.
Et c'est au goût à quoi, les chocolats?
C'est au chocolat noir et noisette.
Si vous avez terminé votre emballage, vous pouvez regarder derrière vous. Vous voyez un grand écran. C'était la télévision à l'époque, 1970. Noir et blanc, on n'avait pas des couleurs. C'est l'époque où on commence à faire la publicité à la télé.
C'est la première publicité de Camille Bloch?
Un des premiers, oui. Voilà, si vous êtes terminé, on va aller un petit peu plus loin. Vous sentez déjà qu'il fait un petit peu plus frais ici? Alors ici, on montre qu'on a des fèves de cacao qui viennent du Pérou. On a les noisettes de la Turquie, de la Géorgie aussi. On a les amandes des États-Unis. Donc, il y a beaucoup de choses qui viennent de très, très loin. Mais il y a quand même quelques ingrédients qui viennent de la Suisse. Donc, le sucre et le poudre de lait. Ça vient de la Suisse.
Est-ce qu'il y a toutes les fèves de cacao qui viennent du Pérou?
Oui, oui, maintenant toutes les fèves de cacao viennent du Pérou.
C'est quoi votre future nouveauté de chocolat?
Si on a des nouveaux chocolats, pour l'instant, on n'a, je crois, pas vraiment des projets pour faire des nouveaux chocolats. On préfère garder ceux qu'on a déjà et quelquefois de travailler sur l'emballage, sur le format. Peut-être le Sonatson aura encore des idées comment faire, mais on est encore en train de réfléchir. Nous, on torréfie pas seulement les fèves de cacao, mais aussi les noisettes et les amandes. Donc, vous pouvez goûter ici. Voilà. Tu dois tirer vraiment loin. Voilà. Alors, on a des noisettes de certaines sortes qui sont, quand une fois torréfiées, ils vont perdre plus facilement la peau.
Ouais.
Et donc, quand ils sont dans leur accusant, en principe, il n'y a pas de la peau.
Ouais.
Alors ici, dans cette zone, on peut voir un petit peu toutes les étapes de la production du chocolat qu'on fait chez nous. Donc, de la torréfaction des cacao, la contrôle qualité déjà, en fait, avant torréfaction jusqu'à la fin. Il y a toutes les différentes étapes. Et dans quelques minutes, quand le collègue a terminé sa présentation du Torino, on va passer pour une démonstration ragusa chez Claude. Comme ça, vous pouvez voir comment on fait un ragusa.
La provenance des noisettes, c'est quoi?
Alors, nos noisettes viennent surtout de la Turquie et aussi de la Géorgie, parce qu'on essaye maintenant d'avoir nos propres noisettes. On a un projet en Géorgie pour avoir nos propres noisettes. On achète déjà un petit peu, mais la Turquie, c'est la plus grande producteur de noisettes.
Voilà, alors bien bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous présenter ce grand torino. Concernant les enfants, vous faites la torino de Madame Laurent.
D'accord?
Cool. Alors voilà, on a ici cette masse parallèle, mon collègue va commencer par la coquille, moi je commence par la masse parallèle. On prend une louche comme ceci, et hop, on la met sur la table. Allez, pour café, on en prend une deuxième, voilà. Voilà. Non seulement on la met sur la table, mais en plus on la met parallèle. Ce que je fais ici, on appelle ça table. Ça veut dire, cette masse, elle est chaude, et on va la refroidir maintenant sur le panier pour qu'elle devienne épaisse et compacte.
C'est une pierre.
C'est une pierre qui est naturellement froide. Maintenant, je pourrais vous dire, bah, écoutez, on la laisse là, puis on va 10 minutes sur la phase de jeu, puis on revient. Naturellement, vous pouvez y aller, mais moi, je ne peux pas me garder. Bah, si je fais ça, ma masse dessus, elle va rester plus liquide, et dessous, elle va durcir toujours les deux jours de ma masse. Donc, il faut tout le temps la mettre en mouvement pour qu'elle refroidisse des raffinaires régulièrement. Donc, on va la pousser encore une première fois.
Oui, mais tu les sens quasiment pas. Tu dois goûter après.
Voilà. Ouais. On va étendre encore une fois. Cette masse pralinée ici, elle a été préparée avec beurre de cacao, cacao, lait, sucre, noisette et amandes. 4% d'amandes, 8% de noisette, beurre pourri. C'est la grande différence par rapport au Ragusa, c'est qu'il y a encore ces amandes, beurre pourri. Et comme maintenant, vous pouvez aussi observer, la couleur a changé. Celle-ci est plus foncée, celle-ci est devenue plus claire. C'est donc c'est le beurre de cacao qui cristallise. C'est pour ça qu'elle s'éclaircit et s'épaissit. Et voilà, maintenant j'ai obtenu une masse bien compacte et je vais pouvoir faire ici mes branches torrides. Voilà. On prend la poche à douille et on y met cette masse comme ceci à l'intérieur. Et voilà, la table est de nouveau propre.
Ensuite, hop, là, avec le verre de chocolat.
Là, et maintenant, on va pousser tout ça vers le bas. Et naturellement, j'ai tout pavé ce que j'ai mis dans la poche à douille. Donc, on va pas laisser la moitié. Hein. J'aime bien le travail, mais quand même. Donc, avec la cône, on va tout pousser comme ça vers l'avant. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir faire ici les branches torrides. On va faire des torrides extra longues aujourd'hui. Voilà. Les branches torrides, maintenant, je vais les mettre environ 10 minutes au frigo. Et ensuite, on va les couper et on va les enrober avec la couverture grecque qu'on a ici sur la ligne. Alors, on part au frigo. Mais naturellement, comme on est rapide, les 10 minutes ont déjà passé. Voilà. Et naturellement, ils sont aussi déjà coupés. Mon collègue a bien fait son boulot, il est loin. Voilà, on va les poser maintenant sur ce ruban.
C'est combien la longueur?
La longueur de la branche, c'est environ 10 cm. Donc, 8 et 10. Après, on a les 23 et les 46 grammes. Ici, ils vont à la douche, oui.
La douche de chocolat.
Et ensuite, on a la soufflerie. La soufflerie, elle souffle sur plus de chocolat pour qu'elle soit enrobée bien régulièrement. Quand tu vois des pêches, quand tu arrives. Voilà. Voilà, elle passe la soufflerie. Et ensuite, ici au bout, on a ce cylindre où il y a beaucoup de chocolat. C'est aussi pour les enrober dessus. Dessous, vous allez voir maintenant ça rend du chocolat sur ce cylindre. Et voilà, les miens qui passent, il y a passé sur la soufflerie, sur le cylindre pour se faire enrober.
Et
on fait un carambolage? Ça m'est déjà arrivé, hein. Boum, l'un dans l'autre. Voilà, ces branches torrides, je vais les mettre pendant quelques minutes au frigo. Et ensuite, toutes les branches que je fais ici, sont là après en dégustation. Et vous les trouverez aussi en rentre au chaud. Et si vous cherchez quelque chose pour le petit déjeuner, le vanille, les 4 heures et sucré, on a aussi la pâte à tarte. Les torrides que vous trouvez en rentre au chaud. Voilà, de mon côté, je vous remercie de votre attention.
Merci
beaucoup.
Merci. Merci, Frédéric.
Merci à vous. Merci à vous, bon après-midi.
Bonjour à tout le monde et bienvenue sur la ligne de démonstration sur le ragusa. Alors, pour faire le ragusa, prenez, j'ai besoin d'une forme, vous voyez. Un moule en plastique. Tout le monde a déjà vu ça. Oui. J'ai rien entendu.
Oui.
D'accord. Alors, ce moule, eh bien, je vais le remplir de chocolat pour faire une pomme, vous voyez. Quelque chose comme ça. Alors, on met le chocolat en milieu. Et je vais le remplir jusqu'en haut. Voilà. Une fois que je l'ai rempli jusqu'en haut, regardez ce que je fais. Je mets bien le chocolat partout. On est d'accord?
Oui, oui.
J'entends rien.
Oui.
Là, j'entends mieux. Je laisse comme ça ou qu'est-ce qu'il faut faire là? C'est vous qui allez me guider.
Il faut encore verser?
Yes. On va le verser. Pourquoi il faut le verser?
Pour que ça donne comme un mot.
Voilà, pour mettre le praliné dedans. Exactement. Alors, je tape et je remplis. C'est fou, hein? Je l'ai rempli pour le vider. Jusqu'à ce que ça coule plus. Et je rate un petit bout. Regardez ma coque, maintenant, comme elle est belle. Et je me demande bien, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dedans?
Ah, des noisettes.
Des noisettes. Donc, vous connaissez le ragusa. Qu'est-ce qu'il y a dans le ragusa?
Des noisettes.
Des noisettes et du praliné aux noisettes. Allez, on y va alors. Je prends ma forme. Maintenant, je vais peser mes noisettes et mon praliné. Est-ce que tout le monde a goûté au début du parcours à la fontaine du chocolat?
Oui.
À gauche, le chocolat. À droite, c'était le chocolat ragusa. Vous avez aussi goûté. Ben voilà, c'est avec ça qu'on va faire les ragusa. Petite question, vous avez aussi goûté les noisettes rôties?
Oui.
Ben vous savez tout faire. Allez, on y va, continuez de peser. J'ai des noisettes. Mon praliné, la particularité du ragusa, c'est qu'il y a trop de noisettes. Hein. Il n'y a pas d'amande dans le ragusa. Et je remplis mon dos. Là, je mélange. Vous voyez derrière moi, c'est des machines qui font ça à la page. Parce qu'on fait entre 8 et 9 tonnes de ragusa par jour. Donc ça, je n'arriverai pas. Même avec tous les enfants qui viennent, je n'arriverai pas. Voilà, je remplis mon moule. Regardez les belles noisettes qui vont venir. Voilà. On a bien égalisé, il y a partout la même chose. Est-ce que j'utilise le frigo magique?
Oui.
Le frigo magique, c'est que ça va rapide. Je mets dans le frigo, je sors, et c'est déjà froid. On fait le frigo magique ou on attend 20 minutes?
Le frigo magique.
J'ai bien entendu.
Le frigo magique.
Allez, on fait le frigo magique. Abracadabra, c'est déjà dit. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait le fond, on a fait le côté, l'autre côté, les deux côtés. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fermez notre ragusa. Je vais le mettre un petit peu au frigo. Voyez, regardez déjà la couleur qu'on va la changer. Le chocolat s'est rétracté, c'est le beurre de cacao. Il fait que maintenant, regardez, à 3. Allez, 1, 2, 3.
Bravo!
C'est de la magie.
Ah, bravo!
Bravo, merci!
Alors, on se trouve où exactement ici?
Donc, c'est une petite salle de cinéma où il y a 2 ans, on a fait ce jeu Incorrigible versus Incorrigible. C'est un jeu vidéo où on profite de tous les sens, en fait. On est une petite noisette qui doit aller dans le ragusa. Donc, on passe par les étapes les plus importantes de la fabrication d'un ragusa. Mais évidemment, c'est un jeu. Donc, c'est en compétition. C'est un petit peu comme Fall Guys.
C'est trop bien. Sous manette, comme la PlayStation.
Ouais. C'est pas la PlayStation.
Il part quand même.
Et vous devez faire quoi dans cette jeu?
Là, il faut tomber dans les trous et l'on a plein d'autres mini-jeux. Il faut brûler, se faire repasser. Ouais, il y en a assez beaucoup. Oui.
Voilà, alors on arrive gentiment vers la fin de notre parcours découverte. On a encore un mur ici avec tous les emballages depuis les années 40 jusqu'à maintenant. Il y a quelques marques qu'on reconnaît mais qui ne sont plus produites et des autres peut-être un petit peu moins connues. Après, on a aussi un cinéma 360 degrés qui montre l'histoire de Camille Bloch d'une manière un petit peu artistique. Et l'endroit la plus préférée, je crois, là, elle l'a déjà trouvée. Parce que c'est en fait notre balançoire Torino, je crois on dit, hein, c'est une balançoire Torino, avec les feuilles, où nos visiteurs, ils adorent s'asseoir, prendre quelques minutes et surtout aussi prendre des photos. Et après, avec ça, on a terminé la visite, on a la possibilité de se renvoyer les images qu'on a fait, les selfies de la Vespa. Et donc, c'est sur ces tables-là. Et après, de profiter peut-être aussi un petit peu du parc ou du bistrot, si vous avez envie de boire quelque chose ou de manger quelque chose un petit peu salé après tout le chocolat.
OK, alors on arrive à la fin de notre visite. Je te remercie, Jessica, c'était super sympa.
Merci Louisa, merci à tous les enfants aussi qui sont venus avec. Je dois dire qu'ils étaient tous très attentifs. Alors c'était vraiment un très grand plaisir pour moi. Merci beaucoup.
Merci et à tout bientôt.
À tout bientôt.
Chers auditeurs, nous clôturons notre émission d'aujourd'hui avec un souvenir particulièrement agréable. Notre visite à Camille Bloch, accompagnée de Jessica, a été un véritable moment de plaisir. Nous tenons à remercier Jessica pour sa sympathie et son professionnalisme qui enrichit notre expérience. Nous vous encourageons vivement à suivre nos pas et à découvrir par vous-même les merveilles de Camille Bloch. Et en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, nous vous souhaitons de savourer chaque instant et de vous émerveiller des délices que la vie vous réserve. À tout bientôt et n'oubliez pas, il n'y a pas de mauvaises questions.
Pas de mauvaises questions.